puisque le verset ne parle que des patriarches personnellement. Nous n'en accepterons pas, comment dire, l'extension à la généralité, premièrement d'Israël et deuxièmement du genre humain. Il s'agit là des hérétiques judéo-chrétiens, vous avez compris pourquoi. C'est-à-dire que le privilège de résurrection des morts par descendance des pères n'est plus, est caduque, il ne s'attache plus à Israël. C'est une toute autre descendance spirituelle qui passe par la médiation chrétienne, et donc ce verset on l'acceptera, mais que pour les patriarches eux-mêmes, pas comme modèle pour le principe général.
Pourquoi est-ce que Rabban Gamliel ne cite pas le même verset que Rabbi Simaï, alors que la dialectique exactement identique, la haine ou la haine, il s'agit des patriarches et de tas. On aurait pu donc s'attendre logiquement à ce que Rabban Gamliel cite le passage de Rabbi Simaï qui avait été apparemment accepté. Or, il en cite un autre.
Non, pas apparemment, il n'a pas été accepté, le passage de Rabbi Simaï. Attention, la Gemara enseigne le passage de Rabbi Simaï, dans la discussion contre les Sadducéens.
Mais elle ne conclut pas qu'ils n'ont pas. Ça se termine.
C'est un peu.
Mikan, l'Israël Samessi, Minatora. Fini le précédent. Avant les trucs mnémotechniques. Apparemment, après, c'est Shalom Minin. Il aurait pu, pour les Minin, se resservir du.
Non, parce qu'il n'a pas affaire aux mêmes interlocuteurs. Voilà ce que je vais expliquer. Je reprends. Il n'a pas affaire aux mêmes.
La question, c'est que quand on compare les deux citations, elles sont très proches. Dans les deux cas, il y a pour nous,
c'est la même.
Dans l'un, simplement, on dit Eretz Kenan, l'autre, on dit Adama. Mais de toute façon, le problème, c'est l'Osses Lohem et pas l'Osses Lohem. Donc, il y a une différence qu'on ne voit pas pour l'instant.
C'est-à-dire, je vais expliquer. Pour nous, qui acceptons cette drasha pour en recevoir l'enseignement, bien que nous n'en avons pas besoin, pour savoir que Chetameti Minatora. Pour nous, ces versets sont plus qu'équivalents, c'est le même raisonnement. Pour nous. Mais Rabbi Simaï est encore dans le paragraphe qui est avant le mot Tzedek. Rabbi Simaï est occupé à la controverse, à la deuxième partie de la controverse avec les Sadducéens. La première, Mamlechet Kohanim, c'est Rabbi Yochanan. La deuxième, le Goy Kadosh, c'est Rabbi Simaï. C'est-à-dire, ces deux rabbinim-là, qui en pourrait admettre.
Mais le premier verset semblerait s'adapter.
Non, je peux vous dire pourquoi. Parce que dans la première explication, on va inférer du cas personnel des patriarches à toute la nation d'Israël. Tandis que.
Ah non, on a affaire des patriarches pour les patriarches eux-mêmes. Et ça exclut l'inversement de tout le monde.
Bon, alors nous allons s'amuser en détail. Alors on continue dans le texte. Où sommes-nous? Ok, Mikhail Israël a dit, veillez sur le livre. Mais certains disent. Qu'il a cité un autre verset accepté. Veishomrim, Ad Sheamar Lahem, Mina Mikraze, Veatem Adevekim, Mashem Elokechem, Chaim Kulechem Hayom. Un verset qui se trouve dans Devarim, chapitre 4, verset 4, une exhortation de Moïse à la génération d'Israël qui se trouve à la fin des 40 ans au désert. Veatem Adevekim, Mashem Elokechem, et vous qui êtes attachés. Et de Vekout, c'est plus qu'attaché. Entendez-le en hébreu, de Vekout, dans le sens chassidique. Et vous qui êtes de Vekim, collé littéralement, à Hachem Elokechem, à celui qui est votre Dieu, Chaim Kolechem Ayom, vous êtes tous vivants aujourd'hui. La Gemara dit, voilà comment il a expliqué le verset. Pshita de Chaim Kolechem Ayom. Moïse s'adresse à eux vivants. Alors, ça va de soi que vous êtes vivants aujourd'hui où je vous parle. Et là, alors pourquoi dire vous êtes tous vivants aujourd'hui? Voilà ce qu'elle a voulu leur dire. Et là, à Filou Beyom, chez Kola Olam Kulometim, même au jour où le monde entier sera mort, Atem Chaim, vous êtes vivants. Mahayom Kulchem Kayamim, de même qu'aujourd'hui vous êtes tous existants, Afla Olam Abba Kulchem Kayamim, de même pour le monde à venir, vous êtes tous existants. Et donc, deuxième version, pas version, enfin deuxième thèse sur la même conclusion, ce n'est que lorsqu'il leur a cité ce verset-là qu'ils ont admis. Explication, ils ont admis que pour cette génération-là. C'est-à-dire que la Torah n'accorde résurrection personnelle, première thèse, qu'au patriarche même, deuxième thèse, qu'à la génération de la sortie d'Égypte à qui Moïse s'est adressé. Et qu'on ne peut pas la faire. Pour l'universel, premièrement l'universel d'Israël, et donc deuxièmement l'universel du genre humain, ça ne passera pas par la médiation de la Torah, mais par une autre. C'est bien clair. Pourquoi ? parce que la caractéristique du judéo-christianisme naissant ici, l'interlocuteur de Rabban Gamliel, consiste à dire que la spécificité de l'alliance à Israël a disparu dans le principe même du message chrétien. Du point de vue du salut, qu'il y ait encore une vocation réservée à Israël, positive ou négative, c'est un autre problème, mais que le salut ne passe plus par l'équation spécifique de Mileda. Je pense que c'est. Enfin, c'est cette fameuse formule que les juifs ne sont plus que les descendants charnels des patriarches, et que c'est caduc, et que les chrétiens, le véritable Israël, sont les descendants spirituels, sont les descendants des patriarches par la médiation spirituelle, et que ça passe par une toute autre médiation. Ça, très rapidement, mais je vous ai continué là-dessus. Bon, je pense qu'on a déjà quand même suffisamment mis en valeur la cohérence de ces dialogues. C'est bien clair, je sais. Shaalu Romim et Rabbi Yoshua ben Hanania. Comment on va traduire ces Romim? Romim, c'est-à-dire les Romains. Quel Romim? De qui parle-t-on ici immédiatement après les judéo-chrétiens? C'est Minin de Rabban Gamliel, c'est les judéo-chrétiens. Mais les autres, c'est
les chrétiens.
Je dirais les roméo-chrétiens, si j'ose dire. C'est-à-dire ces Romains qui commençaient à entendre la bonne nouvelle d'Israël. Mais ils se sont adressés aux rabbins avant de finalement s'adresser aux apôtres. Si j'ose dire, enfin, je romance l'histoire, puisque Rome, mais je pense que c'est clair. Il y a eu des Romains qui se sont adressés à Rabbi Yoshua ben Hanania pour lui poser la question. On a entendu dire qu'Israël dit que son Dieu ressuscite les morts. Alors d'où savons-nous ça? Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Fais-nous comprendre. Minayin shakadosh baruch hu mechayev. C'est clair? Bon. Quel est, par exemple, je ne me souviens plus de détails, le romain de l'évangile qui se convertit lorsqu'il comprend que la mort est vaincue, le centurion, comment il s'appelle? Vous aussi, vous avez oublié.
C'est ça, tu
veux dire. Je veux quelque chose, excusez-moi. C'est si vrai que Paul a senti le besoin d'aller prêcher à Salonique, parce que c'est là-bas qu'on commençait à se convertir le plus au judaïque.
Vous êtes de Salonique.
Non, mais c'est.
Attendez, je vous ai dit.
C'est pour ça que j'avais écrit sur l'épître de votre Salonique.
Oh, c'était Salonique, ok.
Parce qu'il pensait que c'était un terrain dangereux pour les néo-chrétiens.
Écoutez, je voudrais bien comprendre votre question. Expliquez votre question.
C'est pas une question.
Comment
c'est pas une question.
Pardon?
C'est pas une question.
Ah, c'est pas une question.
C'est pas une question, c'est une petite intermède. Oui. Si Paul est allé à Salonique, c'est parce qu'il commençait à y avoir dangereusement des convertis au judaïsme.
Ah oui, oui, bon.
Mais ça, il y a 400 pas de batterie du doyen Simon en Wérous, c'est ça?
Wérous Israël, oui. Oui. Vous savez d'ailleurs que Virus Israël, c'est rentré un peu dans le langage israélien, et on appelle ça Virus Israël. Bien. Oui, alors je reviens au contexte. Regardez bien qu'il y a là deux questions simultanées. Alors, Shaalu Romim, c'est romain. Candidats au salut d'Israël ont interrogé Rabbi Yoshua ben Hanania en lui demandant ceci. Minaïn, d'où savons-nous, chez Akadosh Baruch Hu Mechayemetim, que votre Dieu, Akadosh Baruch Hu, Dieu comme vous le connaissez, ressuscite les morts, Veyodea Mashéati Liyot, et connaît l'avenir, et c'est ce qui adviendra. Connaît le futur. Amarleu, il leur a répondu. Tarvayou, les deux choses, minamikrasé du même verset, Shenema, ainsi qu'il est dit. Vayomer Hashem el Moshe, et Dieu dit à Moïse, Inecha shochev imavotecha, voici que tu vas mourir, c'est-à-dire dormir avec tes pères, dans le verset de tout à l'heure. Vekama amaze vezana, et se lèvera ce peuple et se prostituera. Comment est la dracha? Aux idoles. Comment est la dracha? Eh bien, c'est les deux drachotes à la fois. Inecha shochev imavotecha vekam, ça c'est la résurrection. Et le fait que Dieu prédise l'avenir à Moïse, c'est dans le verset lui-même. Voici ce qui va arriver. Sache que cela va arriver. Réponse, objection, Bédilema, et peut-être je pourrais dire, et là, on peut dire les deux choses à la fois. C'est pas nécessaire que ce soit l'objection des Romains eux-mêmes. Je sais pas si ces Romains pouvaient argumenter déjà sur l'exégèse du texte. Mais ça peut être l'objection de la Gemara elle-même. Bédilema, peut-être qu'on peut objecter, les Kam a ramasé les Anas, que ce verset veut, non pas simplement, mais essentiellement dire que le peuple ira se prostituer aux idoles, et par conséquent, il n'y aurait de réponse qu'à une seule question, le fait que Dieu connaît l'avenir. Là, j'ouvre une toute petite parenthèse, parce que c'est quand même là un problème. Si, effectivement, c'est prévu par Dieu lui-même qu'après la mort de Moïse, il y aura idolâtrie, alors ça nous renvoie au problème de la liberté, de la responsabilité, omniscience et toute puissance de Dieu, donc, où est la liberté, puisque c'est prévu. Je sais pas, si vous voulez qu'on en parle, on parlera de ce problème, mais c'est un autre... un problème. Mais Moïse lui-même a exprimé dans un verset, dans sa propre expérience, déjà quand je suis avec vous, ça ne va pas si bien que ça. Alors, quand je vous quitterai, oh, il va voir. Comment est le verset ? Vegam ki aharemot. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai. Rabbi Yochanan a enseigné au nom de Rabbi Shimon Ben Yochai. Et ça, c'est un enseignement pour nous, pas dans le dialogue. Minayin Shakadosh Baruch Hu Mechayim Etim Veyodeh Armashah Atibliot. D'où savons-nous que Dieu ressuscite les morts et connaît l'avenir, et connaît le futur? Chez Nehema, d'après le même verset, Inechashoche Mordecha Vekam. Tania. Amar Rabbi Eliezer ben Rabbi Yosef. On enseigne que Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yosef, a dit Benabarze ziyafti sifre koutim. Par cette parole-là, j'ai ziyafti disqualifié les livres des koutim, les kitéens, c'est les samarites. Ça, c'est encore une autre dimension dans le dialogue. Chayou Omrim, qui disait, eux, les Kitéens, c'est-à-dire, c'était une peuplade, les Samaritains. Je vous dis très rapidement, vous retrouvez ça dans les données historiques, c'était une peuplade qui avait été installée dans la région de Samarie pour remplacer les habitants juifs, judéens, déportés. Et la coutume dans l'Antiquité, ce qui ouvre tout un chapitre très important, était qu'un peuple devait adopter les dieux de l'endroit. Et par conséquent, les Samaritains s'étaient initiés à la Torah, à leur manière, et avaient donc été devenus ce qu'on appelle les Arayot. C'est-à-dire, on les appelle les convertis à cause des lions. Je vais expliquer de quoi il s'agissait. Ils vivaient sur le pays de Samarie, mais les lions les dévoraient. Enfin, les bêtes sauvages, c'est-à-dire, ils n'arrivaient pas à s'implanter dans le pays. Alors, ils ont fait le raisonnement, qui était évident à l'époque, c'est parce que nous n'adorons pas les dieux du pays. Alors ils ont demandé aux juifs, apprenez-nous votre Torah, de telle sorte que nous ne soyons pas dévorés par les lions. Et alors, ils ont institué cette secte qui existe encore aujourd'hui, et qui s'appelle la secte des... Enfin, c'était toute une nation à l'époque, la nation des Samaritains, qui s'appelle Kitéen, les Koutim, dans le texte de la Gemara. Et puis, il y avait certaines mitzvot, d'ailleurs, qui pratiquaient très exactement, d'autres à leur manière. Vous voyez ici la tentative d'une autre nation qu'une nation juive se prétendant l'Israël de la loi de Moïse pour occuper le pays. C'est le problème des Samaritains, des Chambres. C'est-à-dire, personne n'a encore parlé de cela, écrit cela, traité ce sujet. C'est un drame extraordinaire, une tragédie extraordinaire. Nous assistons aujourd'hui au retour des Samaritains dans l'histoire juive. Sans qu'il ne soit juif. Et quelque chose de dramatique, c'est une communauté qui est en train de. Qui est arrivée à bout de l'histoire, par les mariages consanguins. Ils sont très très peu nombreux. Et je crois que ce serait. Enfin, je paraphrase un peu, enfin j'en parle puisque nous parlons de cela, c'est très tragique de les voir. Par exemple, ils ont les attaches des. Comment on appelle ça ?
Poignées.
D'une finesse extraordinaire, ce qui est le signe d'une fin de philhomme, je ne sais pas comment on dit cela. Et ils ont un problème de survie de leur ethnie. Et donc, il y aurait une œuvre colossale de charité à les intégrer à l'identité israélienne et à faire des mariages, de telle sorte de les ressusciter. Parce que, en fin de compte, bon, l'histoire les a disqualifiés, mais ils sont là comme témoins d'une histoire échouée, et ils sont là avec leur passé, leur mémoire, leur rite, leur... C'est extraordinairement tragique de les rencontrer, et peut-être qu'on pourrait finalement pardonner, parce que ça a été pas simple, cette histoire des Samaritains, et un peu comme ça s'est passé avec la tribu de Benjamin, et permettre les mariages avec eux. Je suis absolument hérétique là-dedans, la halakha n'est pas comme ça, mais je dis ça, si vous voulez, personnellement. C'est un véritable drame de voir cette communauté.
Mais leur halakha non plus n'est pas comme ça, parce que la halakha des Samaritains ne permet à un Samaritain de n'épouser qu'un Samaritain ou un Juif converti avec le Samaritain.
Oui, d'accord.
L'exclusion de toute autre personne.
Oui, d'accord, mais enfin, il se trouve au milieu d'un océan d'Israéliens. Et je crois qu'il y aurait une générosité humaine à passer l'éponge sur tout ça, et de leur côté, du nôtre. Et ils sont très, très Israël, à un point dont vous n'avez aucune idée.
Ils se prétendent même dans leur tradition
du grand prêtre, oui. Oui, je sais. Et leur chef, c'est un Kohen.
Qui vient d'ailleurs d'épouser une Israélienne convertie au Samaritain.
Oui, bon, enfin, c'est pas ce genre de mariage mixte. Il va résoudre leur problème. Et c'est un point douloureux dans la conscience israélienne. Chaque fois qu'on en rencontre un, à Holon ou à Shomron d'ailleurs, on a un pincement au cœur. Parce qu'on voit ici un drame.
Oui. Ils ont dû résoudre un problème parce que j'ai lu que jusqu'à présent, il n'y a pas longtemps, ils sacrifiaient 7 agneaux à Pâques, c'était tant par famille. La dernière fois, ils en ont sacrifié 21.
Oui, mais vous avez 7, 21. Ezerati déjà. Ils ont d'ailleurs un hébreu très spécial. Ils ont des livres très spéciaux, des liturgies, des rites, tout ça c'est très touchant. Mais enfin c'est plus que touchant, c'est dramatique. Bon, peut-être j'ai eu tort de parler de ça.
Non.
Il n'y a pas que d'ailleurs comme secte dramatique. Bien. Amarti lahem, je leur ai dit, ziyaftem toratrem, vous avez falsifié, enfin, c'est plus que falsifié, ziyou, c'est falsification, vous avez dénaturé, sali, toratrem, votre propre Torah, velo eletem biyetrem klum, sans aucun profit, sans aucun résultat. Sheatem umrim, parce que vous dites, entret aveti mina Torah, la résurrection des morts ne procède pas de la Torah. Areu omer, mais voilà que le verset dit, Ikaret en effet Shaï Avonaba. À propos d'une faute donnée, le verset dit, retranchée, elle sera retranchée, et répétition du verbe, Ikaret en effet Shaï, cette personne, Avonaba, sa faute en elle. Je traduis. Ikaret, retranchée, elle sera retranchée, bah on l'a basé, dans ce monde-ci. Avonaba, sa faute est en elle, les émates. Pour quand? Lavla Olamaba, n'est-ce pas, pour le monde à venir? Vous voyez bien qu'il y a allusion dans ce verset. C'est, vous me suivez le raisonnement? Okay. Le Avonaba est en trop apparemment. Amale Rappapa le Abaye. Lorsque Rappapa a parlé de ça à Abaye, il a dit, moi j'ai une objection. Velema le Utarve Umini Kareti Karet. Pourquoi le rabbin précédent n'a pas appris Olamaba de la première expression? Retranchée, elle sera retranchée, cette personne. Il y Havu Amrele, Divera Torah Kitchon Benadam. D'abord le raisonnement. Hikaret dans ce monde-ci, Tikaret dans Olam Haba. Donc il y a allusion à Olam Haba. Mais on a répondu à Rappapa de la manière suivante. Divera Torah Kitchon Benadam. Non, là, il y a un cas. Alors là, c'est un petit autre problème. Nous reprendrons demain ce problème. Il y a, dans une autre Gemara. Ici, il faut dire la Torah a parlé comme le langage des hommes. Ça veut dire, de cette expression-là, nous n'avons pas le droit de faire de raisonnement pour apprendre quoi que ce soit. C'est une manière de parler. Et je vous dis ça très provisoirement. Ce n'est pas du tout ce que veut dire la formule. Je vous ai traduit comme habituellement. Ça veut dire, en réalité, on ne comprend pas ce que la formule veut dire. Parce que la Torah parle ici le langage des hommes, un langage que nous ne savons plus parler. Est-ce que c'est clair?
Oui.
Oui, tout à l'heure. Voilà ce que je vais expliquer. Lorsqu'il y a une formule difficile dans le texte, alors la Gemara dit, bon, ici, il y a « Dibera Torah Kitchon Bene Adam ». La Torah a parlé pour qu'on la comprenne comme le langage des hommes. C'est une manière de parler. Et ne cherchez pas à midi à 14h. Ne coupez pas les cheveux en quatre. Mais il faut s'étonner. C'est Dafka quand on ne comprend pas que la Gemara dit ça. Si ça voulait dire ce qu'elle veut dire, première lecture, elle le dirait quand on comprend. Pourquoi vous comprenez? Parce que la Torah parlait comme vous. Mais c'est quand on ne comprend pas qu'elle dit. On ne comprend pas parce qu'elle a parlé comme vous. Donc c'est qu'on n'a rien compris. Okay? Vous avez suivi notamment? En réalité, elle veut dire Dibera Torah Kilchon Bene Adam. Ici, tu ne comprends pas parce que la Torah a parlé le langage des hommes vraiment. Il faut parler le langage des Bnei Adam, c'est-à-dire la Shema Kodesh, pour comprendre ce que la Torah a dit, et nous aurons une illustration demain dans une autre Gemara. Ketanae. Alors ça, c'est la grande controverse entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, la fameuse grande controverse entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Ceux d'entre vous qui ont le livre de Eshel, d'Abraham Eshel, sur cette controverse, comment s'appelle ce livre, ça m'échappe.
Les bâtisseurs.
Non.
Dieu en quête de l'homme.
Pas du tout. Un livre sur la révélation.
Il n'est plus traduit en français.
Moi, j'ai dans les bras en deux volumes.
Mais il n'est pas traduit en français.
Il n'est pas traduit. Comment s'appelle-t-il? Bon, je vous donne.
Torah
Menachamé. Dafka, c'est la grande controverse entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael sur. Comment considérer la relation exégétique à la Torah en tant qu'elle est révélée? Peut-être le prochain séminaire, on prendra la deuxième phrase de la Mishnah, c'est-à-dire à Homer et Torah Menachem. Je veux dire, j'ai un énorme respect pour Abraham Eshel et pour ce livre, mais je suis désolé de vous dire que je vous conseille de l'étudier, mais je ne dis pas plus, vous avez deviné. Je pense que c'est clair. Oui, c'est pas exact, la thèse n'est pas exacte. Mais enfin, vous avez là un Homer, un monde de citations extrêmement important. Et je ne partage pas, après tout, chacun a quand même le droit d'avoir un avis personnel. Et je ne partage pas du tout la méthode de traitement des textes d'Abraham Eshel. Il y a trop de projections philosophiques dans des sujets qui n'étaient pas de préoccupation philosophique. Bon, mais quoi qu'il en soit, c'est un espèce de travail considérable et que je vous conseille. Bon, on va voir un petit épisode de la controverse entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon. Ketnaï. Hikaret, hikaret. Hikaret, baolamaz. Retranchée, elle sera retranchée. Retranchée dans ce monde-ci. Tikaret, la rôle en bas. Elle sera retranchée dans le monde à venir, dit vrai Rabbi Akiva. Voilà comment Rabbi Akiva a expliqué. Amarlo Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael lui a objecté. Varlo kvar nehemar. Mais n'est-ce qu'il n'est pas dit précédemment? Et Hashem, vous meradev, venichreta, nefeshaï, mehamea. Hikaret, tikaret. Puisqu'il a maudit le nom de son Dieu, retranchée sera cette personne, retranchée, elle sera retranchée. Tu as trois répétitions. Yes. Est-ce qu'il y a trois mondes? Oui, et peut-être. Hein? Bon, peut-être. Bon, notre dimension. Et là, Benichreta, Baolamazé, mais voilà comment il faut comprendre. Benichreta, elle a été retranchée dans ce monde-ci. Elle sera retranchée dans ce monde-ci. Ikaret, Baolamaba, elle sera retranchée dans le monde à venir. Ikaret, tikaret, dibra, Torah, kitchon, benen, adam. Rabbi Ishmael dit, cette répétition, cette redondance, c'est que dibra, Torah, kitchon, benen, adam. En réalité, nous verrons qu'il n'y a pas de controverse entre les deux, quoi qu'on ait dit Abraham Eshel ou Ibrahim, mais ben, la Gemara continue. Ben Rabbi Ishmael ou ben Rabbi Akiva, tant pour l'un que pour l'autre. Avonaba, la fin du verset, sa faute est en elle. Qu'est-ce que je fais avec? Maï Abdebe, qu'est-ce que je vais en faire? Derri de Tania, ça je vais en faire, comme il a été enseigné d'autre part. Yachol afilu asatsula. Peut-être je pourrais croire, retranché, il sera retranché dans ce monde-ci, dans le monde à venir, même s'il se repent, Talmud Lomar, c'est pourquoi j'ai besoin de Avonaba, sa faute en elle, cette personne, lo amarti la bisman chez Avonaba. Je ne parle que lorsqu'il ne s'est pas repenti, que tant que sa faute est en elle. Il y a une espèce d'éclatement du verset. Ça, c'est très important pour nous. Tout ce dont nous avons dit, c'est contenant tenu de la clause du repentir. C'est-à-dire, ceux qui perdent ce relais là-haut, là-bas, tant qu'ils sont vivants biologiquement, si le repentir vient, ils la récupèrent. Par quelle procédure commence notre problème. Et le principe est, nous est donné comme quelque chose d'extrêmement important. C'était une question de. Il y a deux coups. À propos de Rabbi Meir et Charben Amouya. Vous vous rappelez qui avait posé la question de la prof. Jusque-là, nous savons s'il y a repentir dans sa propre vie. Est-ce que quelqu'un d'autre peut le sortir de l'enfer? C'est ma choix. Vous comprenez ce que je veux dire? La réponse est oui, on peut, mais par quelle procédure et comment? Alors, je termine la lecture de la fin de la page, et puis nous reprendrons donc demain en détail au moins une partie de tout cela. Sha'ala Cléopâtre Malkhéta et Rabbi Meir. La reine Cléopâtre. Je viens faire là. La reine Cléopâtre a demandé à Rabbi Meir, Amra, Hélène, Yada'na de Haye Shkhabit Shachbe. Nous savons déjà que les morts ressuscitent. Et Haye, Shachvé, que ce qui dorme dans la poussière est revivant. Elle veut dire, j'admets la résurrection. Bon, admettons. Dirtim, elle tire un autre verset, Veyatsit Tsuveil Kaese Vasav. Et ils germeront de la ville comme l'herbe du champ. Subitement, il n'y avait rien que des ruines de ville, et puis subitement, il y a de l'herbe du champ et donc des habitants. Bon, j'admets que les morts ressuscitent. Et là, mais, Keshen Obdin, lorsqu'ils se dresseront de leur tombe, Omdim Arumim, ils se lèveront nus, au bilbouché, et nous habillés. Alors là, une question de la reine Cléopâtre. Et bon, admettons que les morts ressuscitent. Elle est arrivée à admettre ça. Alors, mais quand ils ressuscitent? Attends, ouais. Bon, on a encore un quart d'heure, ça va. D'abord, c'est une question de soi. Habillé à quelle mode? En tout cas, la mode alité. Mais donc, quand ils ressusciteront, est-ce qu'ils ressusciteront nus ou habillés? Amarla, alors il lui a répondu, Kalvachomer Mechita. Il faut faire un raisonnement, a fortiori, à partir du problème du grain de blé. Quel raisonnement? Si déjà le grain blé commentaire nu, Yotsa Bekamaliushin, lorsqu'il gère avec tant de vêtements, c'est-à-dire la tige, les. Vous voyez l'image? Un grain de blé tout nu, on l'a enterré. Et voilà qu'il ressuscite tout habillé. Tzadikim Shenikbari Minouche, les justes, qui eux sont enterrés avec leurs vêtements, quels vêtements? Le linceul. Alachat Kamavekama, à plus forte raison. Bon, je m'arrête là, mais ça, je vais expliquer. Je vais essayer d'expliquer. Mais vous comprenez déjà, je pense, le caractère important de la question. Si la caméra a mis ici la question de la reine des Cléopâtre à Rabbi Meir, bon, c'est pas seulement du folklore. Et ça veut dire, bon, il peut arriver qu'un non-juif, par exemple, ici, la reine Cléopâtre, arrive à se convaincre de la résurrection. Voilà ce qu'elle veut demander. La résurrection, d'accord, mais à quoi ça a servi la vie? C'est ça qu'elle me demandait. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui s'est passé dans la vie? C'est-à-dire, je m'excuse de parler comme ça, mais trop vite. À quoi on loue? Bon, alors je suis né, j'ai vécu une vie, Dieu préserve la vie. Et puis voilà, je suis mort. Et puis on va me ressusciter. Alors qu'on me ressuscite d'un coup, pourquoi passer à travers la vie? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, à quoi ça a servi? Sa question est la suivante. Bon, d'accord, j'admets, c'est évident. Il faudra bien que la personne ressuscite. Mais est-ce que l'acquis du mérite, est-ce qu'il y a eu un acquis? Est-ce qu'il y aura un acquis de ce qui s'est fait dans la vie terrestre? Parce que sinon, on arrive à un comble d'absurde. Pourquoi tu me ressuscites? Pour me compenser de ce que je suis mort. Alors compense-moi d'abord de toute cette vie. Ne me fais pas vivre toute la vie et fais-moi exister d'un coup en tant que ressuscité. Quelque chose de ce genre. Alors, le Kalva Hamer de Rabbi Meir.
C'est une question de femme, parce que c'est une question sur la gestation.
Exactement. Très bien. Pas à cause de mode de vêtements, bien entendu. Le Kalva Hamer de Rabbi Meir consiste à faire un raisonnement extrêmement important. Tu vois bien qu'il se passe quelque chose d'analogue dans le monde biologique, enfin biologique, botanique. Si déjà dans le monde naturel, l'acquis héréditaire du HIL, c'est comme ça qu'on appelle l'amidon, je sais pas, l'acquis héréditaire des génétiques du grain de blé est préservé, on s'est amélioré la race des grains de blé. Si déjà dans le monde naturel c'est possible, alors à plus fort.